Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Que pensez-vous de la France ? On ne veut pas dire « la France », répond Lisa Fitko, qui avait connu le Berlin d'entre-deux-guerres, cette période de guerre civile avant l'heure, avant même l'arrivée au pouvoir des nazis. La France, c'était l'exil, l'un des premiers, et les camps de concentration, en France, avec l'étrange et fallacieuse impression que cela pouvait ne pas durer, que les nazis n'allaient pas longtemps conserver le pouvoir en Allemagne. Lisa Fitko était née en Autriche, de parents tchèques, avait passé son enfance à Berlin. Dans le désordre de la mémoire, elle évoquait à la fin des années 80, au micro de Pascal Werner, sa vie en France et les filières d'évasion vers l'Espagne, filières d'évasion qu'elle avait organisées pour les réfugiés allemands, entre autres Walter Benjamin. Mémoire du siècle, première diffusion sur France Culture, le 16 août 1988.
Rescapée des persécutions nazies et des camps d'internement vichistes, Lisa Fitko a remporté le Grand Prix du livre politique en Allemagne en 1984 pour sa chronique de l'aventure clandestine des réfugiés politiques allemands dans la France de 1940-1941. Traduit en français en 1987 chez Marensel, son livre est le récit étonnant de vérité d'une résistante anonyme débordante d'appétit de vivre. Par-delà ce récit, Lisa Fitko, qui vit depuis 1950 à Chicago, témoigne pour les Mémoires du siècle de son itinéraire d'exil.
Das Kind unten ist, das geht nicht.
Das geht einfach nicht, okay.
Ja, das gut, geht nicht. Okay. Ja, danke schön.
Lisa Fitko, nous avons la chance de vous accueillir ici à Paris, chez votre éditeur, Marensel, qui a trouvé votre livre en Allemagne, en 84, et qui l'a traduit, qui l'a fait traduire ici, sous le titre « Le chemin des Pyrénées ». Et c'est assez étonnant parce que c'est le témoignage d'une réfugiée politique juive allemande qui organise en France, à Banyuls, une filière d'évasion au moment de l'armistice signé par Pétain, qui signifiait que tous les réfugiés, tous les juifs et tous les immigrés anti-nazis pouvaient être extradés. Donc, dans ce climat de traque, on vous a confié une filière d'évasion. C'est ce que vous avez raconté dans Le chemin des Pyrénées, un très très beau livre. Mais peut-être, c'est le style de Mémoire du siècle, on ne raconte pas les livres, on demande aux témoins de nous raconter leur histoire, leur propre histoire. On peut prendre ce moment de l'exil en France et vous entraîner vers un flashback, comme on dit, en arrière. Cette filière d'évasion, elle est l'aboutissement de quoi ? Qu'est-ce qui l'a provoqué ? Qu'est-ce qui a préparé tout ça ? C'est d'abord l'exil, n'est-ce pas ? C'est 1933. Qui étiez-vous en Allemagne à ce moment-là, en 1933 ? Comment viviez-vous ?
Enfin, j'étais assez jeune.
Vous êtes née en 1909 ?
Oui. En fait, j'ai fait toujours mes études. J'étais une des gens qui combattaient le nazisme avant de venir au gouvernement. Et en 1933, je ne voulais pas m'enfuir tout de suite. Mes parents, par exemple, sont d'aller en Tchécoslovaquie tout de suite. Et il y avait d'autres gens, des intellectuels, des écrivains, des artistes qui se sont enfuis tout de suite. Mais moi, je voulais rester. Tous mes camarades, mes amis, tout le monde voulait combattre ce fascisme qui était venu au pouvoir. Alors moi, je voulais rester, mais après quelques mois, il fallait que je m'enfuis aussi. Je suis allée en Tchécoslovaquie, on y restait quelque temps. J'ai rencontré mon mari à Prague. Il était aussi de Berlin, mais on ne se connaissait pas là-bas.
Vous êtes connue dans les cercles des réfugiés anti-nazis.
Oui, oui.
Vous étiez dans la clandestinité à ce moment-là, à Prague?
Non, on était légal à Prague, mais il y avait toujours des permis de séjour et tous ces papiers provisoires et on ne pouvait pas rester longtemps. Alors après quelques temps, c'est-à-dire je crois après 2 ans à Prague, on est allé en Suisse. Et en Suisse encore, on est resté quelques temps et on était toujours près de la frontière allemande et on a continué à produire de la littérature anti-nazie parce qu'en Allemagne même, ça a été devenu très dangereux de produire la littérature. Alors on le faisait dehors de la frontière et on le transportait en Allemagne. Puis on est allé en Hollande pour faire la même chose. Et en Hollande, c'était très difficile parce que on connaissait les réfugiés même de la manière de parler, de l'accent. Et je me rappelle que mon mari et moi, pendant tout ce temps en Hollande, on n'a jamais parlé un mot dans la rue parce que c'était trop dangereux. Et puis après, on était à Paris et la guerre a éclaté et on était là. On a pris tous les hommes réfugiés dans des camps de concentration. On laissait les femmes à ce moment-là. Et puis après quelques mois, quand l'invasion allemande commençait, on a pris les femmes aussi. On les a mis au Veldiv d'abord. On nous a laissés là, je crois, 10 jours ou 15 jours. Et après, on nous a mis dans des trains pendant des jours. Et puis, le train s'est arrêté et j'ai vu, ça disait Oloron. Alors, je connaissais le camp de Gurs qui était très près d'Oloron. Et puis, on était dans le camp.
Comment est-ce que ce mot de Gurs pouvait signifier quelque chose?
Parce que Gurs, c'était un camp qui était construit à la fin de la guerre civile en Espagne. Et les Espagnols et l'armée républicaine s'est fui à travers les Pyrénées en France. Et là, en France, quand ils arrivaient, on les a mis dans ce camp qu'on a construit en hâte, ça s'appelait le camp de Gurs. Alors, ils étaient là et je crois que c'était fin de mai 1940 qu'on a transporté, on disait alors, 10 000 femmes de Paris à Gurs.
Dans ce camp se trouvaient rassemblés des criminels, des réfugiés politiques, des réfugiés juifs, et puis des gens de toutes sortes. Quelle était la signification de ce camp? Qu'est-ce que vous compreniez de la vie dans ce camp? Qui était, à ce moment-là, on appelait ça un camp de concentration, mais depuis on dit un camp d'internement pour distinguer des camps allemands, je crois.
On me demande souvent pourquoi je dis camp de concentration, parce que c'était quand même pas la même chose que les camps allemands. Et j'explique que moi, je dis camp de concentration parce que c'était ça le nom que le gouvernement français a donné à ce camp-là et à d'autres camps aussi. C'était officiellement un camp de concentration d'Ouïghours. Naturellement, il y avait des distinctions entre les camps allemand et le français. Par exemple, il n'y avait pas de torture, on n'assassinait pas les gens, on les laissait mourir de faim, ça c'est vrai, mais ce n'était pas comme faisaient les nazis. La situation dans les camps était terrible. On a mis là tous les gens d'origine allemande. Les Autrichiens étaient par-dessus cela aussi, parce que l'Autriche était occupée à ce temps-là par l'Allemagne. On les a mis tous, ce qui veut dire on a mis les réfugiés politiques anti-nazis. Alors il y avait les gens qui, c'était de vrais Allemands, qui avaient un passeport allemand. Et tout le monde qui se trouvait au moment de la déclaration de guerre en France. Ça c'était par exemple des prostituées, ça c'était les, comment dit-on, les gens avec leur bateau sur le Rhin. S'ils étaient dans la partie française du Rhin, alors on les a mis dans les camps de concentration. Et des Allemands qui vivaient en France. Mais entre ceux-là, il y avait beaucoup de nazis, naturellement, et on les a mis avec nous.
Vous racontez une scène où on devine tout de suite votre tempérament. Vous racontez qu'en arrivant dans ce camp, vous voyez une espèce de paillasse par terre,
ah oui,
et qui est dans un coin, et vous vous dites, je vais au moins avoir un coin pour moi toute seule. Et puis quelqu'un s'approche de cette paillasse et dit, c'est pour moi. Vous êtes tenté de vous disputer, et puis vous vous dites, non, non, on ne va pas commencer à se disputer pour une paillasse. Et vous reprenez vos affaires, votre valise, et néanmoins, en partant, vous lui donnez un coup dans les genoux.
Oui.
Il ne fallait pas s'abaisser à se disputer.
Oui, dans ma tête, je me disais, mais c'est incroyable de se disputer. Nous sommes tous des prisonniers ici, l'une que, et l'autre, et elle veut me chasser. Et c'est terrible qu'on se dispute, mais je ne vais pas me baisser au même niveau. Je ne vais pas me battre pour une paillasse. Mais j'étais enragée, alors je lui ai donné un petit coup.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus de ces quelques mois passés dans le camp de Gurs? Est-ce que dès cette époque-là, vous pensiez qu'il fallait quitter la France? Que là aussi, le refuge français était dangereux? Parce que c'était pour vous une terre d'asile, la France. Et à Gurs, c'était la fin de la terre d'asile, non?
Quand on est arrivé à Gurs, les Allemands n'étaient pas encore à Paris. Ils avançaient, mais vraiment, personne, et moi non plus, on n'a jamais cru pendant ces jours-là que toute la guerre va durer 5 semaines pour la France et que les Allemands vont avancer à Paris et qu'ils vont occuper la moitié de la France ou plus. Alors, je ne crois pas qu'on était décidé pendant ces jours-là qu'il fallait quitter la France. Mais en quelques semaines, c'était clair.
Ah oui.
Oui.
Alors, l'évasion. Est-ce que toutes les femmes que vous avez côtoyées là étaient déterminées à s'évader ou est-ce que c'était une minorité?
C'était une petite minorité. C'était, je crois, surtout les femmes qui étaient habituées à se débrouiller, à la persécution. Les femmes dont la vie jusqu'à là était plus ou moins normale, ils ne comprenaient pas. Et il y avait un phénomène très curieux. Je me rappelle que pendant la nuit, avant de notre évasion, j'ai parlé à des douzaines de femmes et je leur ai dit « Mais il ne faut pas rester ici, ça sera la Gestapo. » Mais moi je me disais, et beaucoup de mes amis aussi, qu'on ne va pas rester dans les barbelés s'il ne faut pas. Et la discipline dans le camp se dissipait tout à fait. Et même les officiers, le commandant ne savait plus quoi faire. Je me rappelle du commissaire spécial du camp. Il était très nerveux. Il disait à nous, à ses prisonnières, « Qu'est-ce que je fais si les Allemands viendront occuper le camp et ils me donnent des ordres, et il faut que je suive les ordres après tout, et dites-moi ce que je vais faire avec vous. » Alors nous, on ne voulait rien avoir avec lui, on se méfiait de lui. Mais les femmes, c'était ce qui était ce phénomène que je n'ai pas compris tout à fait, mais un peu, parce que j'ai parlé à beaucoup de femmes plus tard qui m'ont expliqué pourquoi ça leur faisait peur de quitter ce camp. C'était un camp terrible, il avait la famine, la seule chose qu'on avait à manger c'était des pois chiches, on n'en pouvait plus, on était malade. Mais c'était un coin de sécurité. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans le monde, dehors du camp. Ils ne savaient pas ce que ça veut dire, les Allemands ont envahi le pays. Personne ne savait à ce moment-là où les Allemands vont s'arrêter. Et on me disait des choses comme « Mais qu'est-ce qu'on va manger ?» Et j'ai dit « Mais vous n'allez quand même pas rester dans le camp pour ces pois chiches ?» Ça, c'était une chose. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire avec l'argent. Moi, j'en avais pas du tout. Je n'avais pas le sou. Mais la question pour moi et pour mes amis, c'était d'être dehors du barbelé. Et puis l'autre chose qu'elle me disait, ces femmes qui ne voulaient pas quitter le camp, c'était « mais mon mari ou ma mère ou ma fille ou quoi sait que je suis ici et il me va chercher ici et nous n'allons nous trouver jamais si je pars d'ici ». Ça leur faisait peur de quitter ce camp.
Les choses vont très vite, il faut un peu parler de cette filière d'évasion, parce qu'à ce moment-là, Lisa Fitko, vous ne pensez plus qu'à une chose, c'est retrouver votre famille, et vous évadez pour, est-ce que vous savez pour où, est-ce que vous savez pourquoi, est-ce que c'est la fuite, est-ce que c'est un sentiment de survie tout simplement, qu'est-ce que c'est à ce moment-là?
Oui, on voulait survivre et je parle de moi-même et de mes amis qui étaient des réfugiés politiques aussi. On voulait se sauver, on voulait survivre parce que nous étions part de la résistance allemande et enfin, après la guerre, on voulait retourner en Allemagne, ce qui était notre pays, et aider à reconstruire une Allemagne démocratique et de paix.
Lisa Fitko, c'est ça qui est le plus surprenant, parce que vous étiez juive, votre mari lui était un ouvrier berlinois, devenu journaliste.
Oui.
Et pas un instant, vous ne pensez que l'Allemagne nazie, c'est quelque chose qui empêche votre retour. Vous imaginez toujours que vous allez pouvoir revenir en Allemagne.
Enfin, il faut penser d'abord que c'était avant que l'Holocauste commençait. Il y avait de l'antisémitisme en Allemagne, il y avait des lois antisémitiques. Pour moi, c'était le gouvernement, c'était les nazis, c'était les gens les plus mauvais en Allemagne. Mais ça ne veut pas dire que tout le peuple allemand est méchant, parce qu'il y avait à ce temps-là des centaines et des centaines de gens qui avaient été tués par les nazis, par le gouvernement, les autorités, pour leur résistance contre le nazisme en Allemagne. Et ça, pour moi, ça c'était mes amis. Et ça, c'était pour moi l'Allemagne. L'antisémitisme était là, mais ce n'était pas comme ça commençait à 41 et 42.
Est-ce que tous les réfugiés partageaient ce sentiment-là?
Les juifs allemands, dans la plupart, étaient très allemands. Ils se sentaient très allemands. Et pendant ces temps-là, je crois que la majorité, même pas les gens politiques comme moi, ils pensaient de l'Allemagne comme un pays qui avait été envahi par une horde barbare et qu'un jour, pas très loin, que ça va finir et qu'ils peuvent rentrer dans leur pays. Avec moi, c'était encore un peu différent parce que moi, je me sentais comme part de la résistance allemande. Et c'était ça ma vie.
Peut-être il faut nous expliquer alors la rencontre que vous avez faite avec Hans Witko, votre mari. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la guerre, vous croyez qu'une jeune femme comme vous, fille d'un milieu intellectuel, juif, allemand, de parents qui animaient une revue pacifiste, aurait épousé Hans Witko, qui était un ouvrier du quartier de Spandau? Est-ce que ça aurait été possible s'il n'y avait pas eu la guerre?
Enfin, mes parents connaissaient beaucoup d'ouvriers berlinois et ils savaient qu'il y en avait de très intelligents, peut-être plus intelligents que quelques intellectuels. Et lui était journaliste, mais il avait toujours ce background d'ouvrier berlinois, ce qui, à mon avis, c'était une très bonne combinaison.
Et qu'est-ce que c'est alors ce background, comme vous dites, cet arrière-plan, cette de culture de l'ouvrier berlinois?
En général, je dirais que j'ai vu dans l'immigration en France et en d'autres pays que les ouvriers savaient beaucoup mieux comment se débrouiller. Les intellectuels et surtout les gens bien qui avaient une bonne vie normale, c'était très difficile pour eux de s'habituer à une vie qui n'était pas normale. Mais les ouvriers, c'était un milieu où on devait toujours lutter un peu pour survivre, et alors ils étaient beaucoup mieux placés à se débrouiller. Mmh. Alors, c'est ce que je veux dire, la combinaison d'être ouvrier et quand même être journaliste et comprendre tant qu'on pouvait ce qui se passait dans le monde.
Expliquez-nous un peu comment on vous a confié une filière d'évasion clandestine pour l'ensemble des réfugiés politiques et des réfugiés juifs.
On n'avait pas l'intention de créer une filière pour tout le monde. Moi, je suis allée à la frontière, on m'a demandé pour trouver un chemin pour aller à l'Espagne. pour nous, c'est-à-dire mon mari et moi et mon frère et sa famille et peut-être une douzaine d'amis. Mais alors, quand j'étais là, quelqu'un est venu me voir, me demandant si je peux le passer par les montagnes. C'était Walter Benjamin. Et moi, je n'avais pas fait le chemin, mais j'avais trouvé un bon chemin par le maire de Banyuls, M. Azema, qui m'a décrit le chemin et m'a fait un petit dessin. Alors j'ai dit à Walter Benjamin, je veux bien essayer de vous aider, mais je ne suis jamais allée moi-même. Alors il disait, ça c'est bien, il se confiait à moi.
Oui.
Et je l'ai amené par ce chemin-là, qui à cette époque-là, on l'appelait la route Lister, parce que c'est le général espagnol Lister qui a conduit ses troupes par cette route.
Lisa Fitko, le premier personnage alors à qui vous faites traverser la frontière espagnole clandestinement pour rejoindre le Portugal et pour du Portugal essayer de gagner les États-Unis, c'était Walter Benjamin. Et alors, oui, il faut que vous nous expliquiez ce personnage parce que nous, on connaît son suicide. Mmh. Et vous le voyez dans ses derniers moments. Alors, dans ces derniers moments, il est plein d'espoir. Il pense qu'il va gagner les États-Unis, que la persécution est finie. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
Il avait un visa pour les États-Unis, ce qui c'était très rare.
Oui.
Les États-Unis n'ont pas donné beaucoup de visas aux réfugiés. Ils ne voulaient de nous non plus, comme tous les autres pays. Et oui, c'est vrai, il était plein d'espoir de s'échapper.
Walter Benjamin avait eu un visa parce qu'il était un intellectuel,
oui,
connu.
Enfin, il n'était pas connu comme maintenant, pas du tout. Et pour moi, c'était une autre personne. Je le connaissais de Paris. Et pour moi, franchement, Walter Benjamin, je l'aimais bien. Il était très gentil et très poli. Mais il était un écrivain allemand, réfugié à Paris, comme il y avait de centaines. C'était évident de ce qu'il me disait, qu'il voulait sauver sa vie, mais il dit que le contenu de sa serviette, sa coche, était encore plus important que sa vie.
Et vous avez dit ça?
Il m'a dit ça plusieurs fois pendant le passage. Et moi, je trouvais ça bizarre et ça me faisait penser à des choses que je savais par mon mari de Walter Benjamin parce que les deux étaient ensemble dans un camp en France, un camp de concentration qui s'appelait Vernuche. C'est près de Nevers.
Oui.
Alors, je savais qu'il est assez bizarre et je trouvais ça bizarre parce que c'est une manière de regarder les choses qui étaient très différentes des nôtres. Nous voulions sauver des vies. Mais je voyais qu'il ne va pas laisser cette sacoche et alors il fallait l'emporter à travers les montagnes. Mais il ne donnait pas du tout l'impression qu'il voulait se suicider. C'était seulement qu'il a toujours calculé tout, chaque pas de sa vie en avance. Alors, ce que je ne savais pas alors, mais il avait de morphine pour le prendre au moment que c'était nécessaire. Et il n'était pas le seul. Presque tous les gens, les réfugiés pour qui il était possible de se procurer d'un poison quelconque, il l'avait pour ce moment-là. Alors, je ne le savais pas, mais c'était enfin presque normal dans ces circonstances. Ce qui était différent, à mon avis, avec Benjamin, c'est que parce qu'il n'était pas débrouillard, parce qu'il ne connaissait vraiment pas le monde réel, au moment où on lui disait en Espagne, à Portbou, c'est la frontière, qu'on va le renvoyer en France, moi ou nos amis, les politiques, on n'aurait pas pris le poison tout de suite. parce qu'on savait déjà que les Espagnols avaient des ordres de Madrid un jour et l'autre jour ce n'est pas la même chose, et qu'il y a presque toujours moyen d'essayer de se débrouiller. Mais pour lui, ça c'était inconnu, et aussi peut-être il était très fatigué parce qu'il avait une maladie de cœur, et pour lui c'était quand même très fatigant de traverser les montagnes. Et je crois qu'il était désespéré. Ce qu'il voyait, c'est qu'on va le livrer à la Gestapo.
Qu'est-ce qu'il emporte de ces souvenirs-là, de ces moments-là, de cette France qui est votre dernier moment en Europe? Parce que après, vous partez pour Cuba, Lisa Fitco, et puis pour les États-Unis à Chicago. Quels sont les épisodes qui vous frappent le plus?
C'est un mélange. Le peuple français, je le voyais alors et je le vois toujours, pas comme un peuple qui ou bon ou mauvais. Je vois des individus, on avait beaucoup d'expériences où des gens nous ont aidés, comme par exemple ce maire de Banyuls, sans qui on n'aurait pas pu faire rien. Il y avait d'autres gens à Banyuls. Il me paraît maintenant que, en général, la population de Banyuls savait bien ce qu'on faisait. On ne voulait pas savoir plus, on n'en parlait pas, mais on savait assez bien. Et pendant toute cette époque, personne de ces réfugiés aurait pu survivre sans l'aide de Français. Et enfin, il y avait d'autres. Quand je suis tombée malade à Banyuls, par exemple, on a cherché le médecin. C'était un jeune homme qui est allé le chercher. Le jeune homme était assez naïf et il a dit au docteur, je ne sais pas pourquoi, que nous étions des réfugiés de l'Allemagne. Alors, il a refusé de me voir. Il y a des gens comme ça aussi. Il y avait le commissaire de Mâcon qui a fait arrêter à mes parents et 20 d'autres juifs âgés qui venaient de passer la ligne de démarcation et qui voulaient les livrer aux Allemands. Alors, comment peut-on dire la France? Tout ça, c'était des Français.
Vous pouvez expliquer ce qui se passait dans la tête de votre mari, qui était un personnage très attachant. Vous m'avez dit une fois que l'Allemagne, c'était pour lui toute sa vie, et que beaucoup plus que vous, parce que vous étiez, Lisa Fitco, vous étiez née à Vienne, en Autriche, vos parents venaient de Tchécoslovaquie, et lui, vous dites, sa culture, c'était la culture politique de Berlin. Alors qu'est-ce que c'était ?
C'était enfin la gauche de Berlin, c'était des ouvriers. Il y avait d'autres gens aussi, mais la plupart c'était des ouvriers comme lui, de familles d'ouvriers. Et ça c'était le mouvement de gauche. Il était un fils de cette culture. Et puis quand le nazisme est venu au pouvoir, toute sa vie a tourné de combattre le fascisme, mais c'était plus. C'était de se défaire de l'esprit de fascisme en Allemagne, qu'il voyait qui était très fort depuis la guerre première mondiale. Il pensait qu'il prendra plus que la victoire des Alliés pour détruire l'esprit du fascisme qui avait des racines dans une part du peuple allemand. Mais c'était son peuple, c'était sa nation.
Et comment est-ce qu'on pourrait le décrire, ça, le Berlin que vous aviez aimé, c'était, et le Berlin que vous avez aimé et le Berlin que vous avez fui, comment le montrer?
Mais je crois qu'on sait toujours que pendant ces années-là, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, c'était une très haute culture, le théâtre, il y avait tellement de choses tout à fait nouvelles qui n'existaient jamais avant. C'était enfin le Berlin de Bertolt Brecht et de Tucholsky. Je ne sais pas quel nom je dois dire parce que je ne sais pas la génération aujourd'hui qui est connue encore ou qui n'est pas. Mais c'était... Il y a tellement de talent et le théâtre qui était tout à fait une chose très nouvelle, l'architecture, la musique, il y en avait de tout. Les gens étaient bien heureux, sauf qu'ils voyaient tout le temps le danger politique dans la politique allemande qui allait de plus en plus à la droite.
Oui. Comment est-ce que vous le sentiez? Est-ce que vous avez un souvenir précis pour le raconter?
Pendant, je voudrais dire, un an et demi avant que Hitler a pris le pouvoir, il y avait c'était presque une guerre civile latente à Berlin surtout. Le matin, on pouvait lire dans les journaux combien de gens avaient été tués pendant la nuit, parce que ce que les nazis essayaient, et c'était avant qu'ils venaient au pouvoir, c'est de terroriser Berlin, ce qu'on appelait Berlin Rouge, les socialistes, les communistes, et ils voulaient terroriser les gens jusqu'à... Le Rouge avait peur de se montrer. Il essayait de venir dans les quartiers ouvriers.
Il y avait le quartier de Spandau?
Oui, beaucoup, beaucoup. Je veux dire qu'on était toujours en garde. Si on était reconnaissable... comme par exemple des membres d'un groupe d'étudiants socialistes. Et on voulait être reconnaissable parce que c'était une part de montrer que Berlin n'est pas fasciste. Alors il vous chassait, il tirait, s'il pouvait, il vous assassinait. Alors il fallait se défendre. Il y avait des batailles chaque nuit.
Des batailles entre les jeunes ouvriers?
Les jeunes ouvriers et les nazis.
Ah oui?
Oui. C'est un peu difficile de décrire des choses comme ça. Ça revient quelquefois dans mes rêves.
De quoi rêvez-vous?
De persécution, de courir pour échapper à un groupe de nazis, de SA. Il y avait un jour en décembre 1932, c'était juste un mois, enfin moins que ça, 2 semaines avant, non, 4 semaines avant que Hitler est devenu chancelier, qu'il y avait la première manifestation des nazis au centre de Berlin. Ils n'avaient jamais osé de pénétrer le centre de Berlin, qui est très ouvrier, était à cette époque-là. Et c'était la première fois, ils se sentaient tellement forts à cette époque qu'ils ont organisé une démonstration, une manifestation à Alexanderplatz. J'étais là et il y avait des contre-manifestations. Ils étaient circlés par les ouvriers qui protestaient. Parce que ça, c'était vraiment une chose très grave. Pour les nazis de les laisser pénétrer dans le centre de Berlin. Et je me rappelle comme les toits étaient pleins de policiers comme mitrailleuses. C'était pas pour tirer aux nazis, parce qu'il avait un permis de manifester. C'était pour tirer aux gens de la gauche s'ils attaquaient les nazis.
Mm-hmm.
Alors c'était ça la situation.
Et des souvenirs d'antisémitisme, vous en avez ?
Oui, il y avait... Vous savez, à Berlin, on ne le prenait pas très sérieux jusqu'à beaucoup plus tard. Parce que, à mon avis, à mon expérience, et je suis allée à l'école à Berlin, l'antisémitisme n'était pas très profond entre les Berlinois. Ils s'en fichaient. Je sais la différence parce que comme enfant, j'étais à l'école d'abord à Vienne. Et puis à Berlin. Et à Vienne, il y avait tellement d'antisémitisme à l'école. Et vous savez que les enfants vous disent ce qu'ils apprennent à la maison. À mon avis, ce n'est pas toute l'Allemagne. Il y avait beaucoup d'antisémitisme dans le sud de l'Allemagne. Mais à Berlin, ce n'était pas une chose très populaire. Mais je me rappelle bien, les nazis, il y avait de petits groupes, ils faisaient des chants antisémites. Et on s'y moquait, on ne croyait pas qu'il faut le prendre sérieux. On se moquait de Hitler, on se moquait de son petit moustache, il était tellement ridicule. Pendant des années, on ne comprenait vraiment pas comme il était dangereux.
Mmh. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été troublée, où les choses vous sont apparues plus dangereuses? Par exemple, avant votre départ, qu'est-ce que vous avez senti?
Oui, c'était une situation affreuse. On savait, à la fin de 1932, que Hitler viendra au pouvoir. Mais je crois qu'il n'y avait personne qui pourrait s'imaginer vraiment ce qu'ils feront. Mais quand on avait les premiers camps de concentration, qui est tout près de Berlin, et quand ils sont venus chercher les gens dans les maisons, vous savez, ça commençait pas par le gouvernement. C'était que dans chaque quartier, les gens se connaissaient, les nazis connaissaient les gens de la gauche. Ils étaient ensemble à l'école, ils se connaissaient dès l'enfance. Et c'était une chose du quartier, on est venu dans chaque quartier. Les nazis, la SA de ce quartier est venue de chercher ses ennemis. Et quand on a appris enfin, après très peu de temps, qu'ils les mènent dans leur bâtiment pour les torturer, pour les assassiner. Et les camps de concentration, on les battait et les torturait. Ça, c'était un choc terrible.
Lisa Fitko, si pour les mémoires du siècle, on essayait de reconstituer une scène de rue du Berlin que des milliers de réfugiés ont fui, qu'est-ce que vous choisiriez comme scène ?
Mais je vois surtout les batailles de rue,
oui,
qui on pouvait voir chaque jour et chaque nuit surtout. Et je vois les chômeurs qui étaient surtout des jeunes chômeurs. Il y avait beaucoup de scènes où ces gens, jeunes gens qui avaient faim, ils allaient dans les boulangeries et prenaient du pain et couraient. Ça se passait beaucoup. Il y avait beaucoup de manifestations. Ils allaient dans les quartiers des riches pour manifester leur faim. Et c'était un peu de tout. Il y avait les nazis avec toute leur brutalité.
Déjà,
c'était des assassins, ouais. Mais oui. Il y avait encore de gens bien riches qui se promenaient. J'ai entendu une fois une femme dans un quartier bien riche. Il y avait justement là une manifestation de jeunes chômeurs. Et cette jeune femme qui est passée, elle était très bien vêtue et elle disait « Il m'embête, il crie, pourquoi il crie tellement fort ?» Et alors je me suis retournée, j'ai dit à elle « Mais ils ont faim !» Et elle dit « Mais c'est pas une raison pour crier fortement. » Alors, je veux dire, ceux qui avaient la bonne vie ne comprenaient pas du tout ou ne voulaient pas comprendre.
Et les uniformes nazis, on les voyait beaucoup.
Les bruns, oui, mais ils savaient très bien qu'il y a des quartiers, surtout des quartiers ouvriers, où ils n'osaient pas se faire voir. Parce qu'ils auraient été attaqués dans leur uniforme. Il y avait un temps, avant qu'ils aient pris le pouvoir, où quand on les voyait dans les quartiers ouvriers, on les déshabillait de leur uniforme brune et on les envoyait promener.
Oui. Et les dénonciations, comment est-ce que ça se passait ? Dans votre quartier, par exemple, vous habitiez un quartier riche, un quartier pauvre ?
Oh, c'était comme si, comme
ça. Un quartier moyen, de classe moyenne, oui,
oui. Oui, oui.
Est-ce que vous aviez le sentiment qu'autour de vous, les gens pouvaient vous dénoncer parce que vous étiez juive?
Ce n'était pas, tant que je sais moi, une vraie persécution. On persécutait les gens de la gauche. Je parle de Berlin, vous savez, le pays, ça c'est autre chose. La capitale, c'est toujours autre chose que le reste du pays. Après que Hitler a pris pouvoir, on a, oui, des voisins auraient dénoncé les gens de gauche.
Les juifs,
non, parce qu'il n'y avait pas encore les lois contre les juifs. Il y avait des choses antisémitiques. Par exemple, je crois, le 1er avril, il y avait un jour, en 33 déjà, il y avait un jour de boycott des commerçants juifs. Et je me rappelle très bien de ça. Mais c'était, voyez, il faut faire une différence entre partis, les organisations nazies et le gouvernement. Parce que, il y avait toujours un président. Mais la police en Prusse, ce qui est Berlin, n'était pas nazie du tout. Il y avait même beaucoup de cas où les nazis sont venus chercher quelqu'un. Cette personne s'est enfuie au toit et a crié, chercher la police. Les voisins ont appelé la police. La police est venue et a dit aux nazis, c'est un criminel, il est à nous. Ne le touchez pas. Et ils ont sauvé quelques gens comme ça. Alors la police n'était pas très aimable avec les gens de gauche, mais ils n'étaient pas des nazis. Et il y avait ce jour, par exemple, du boycott des commerçants juifs, mais ce n'était pas le gouvernement.
Non, mais à quoi c'est quand même quelque chose d'étonnant, le boycott des commerçants juifs.
Mais oui.
Alors, comment ça se passait?
Je suis passée par Alexanderplatz et j'ai vu des nazis dans leurs uniformes bruns devant une petite boutique de chaussures. Alors j'étais curieuse, j'y suis allée et je me rendais compte que c'était une place juive et qu'ils chantaient « C'est un juif, n'achetez pas chez les juifs, n'entrez pas ».
Ils chantaient ?
Oui, oui.
D'une manière très moqueuse, très insultante.
Oui, 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 et aussi menaçant.
Ah oui?
Oui, et quand j'ai vu ça, je décidais d'entrer. Et
ils étaient nombreux? Les uniformes nazis étaient nombreux sur la place?
Enfin, ils formaient des lignes dans la rue à l'entrée de cette boutique où on fallait passer entre les nazis, entre les uniformes bruns, pour y arriver. Et à ce moment-là, quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé d'entrer. Et c'était fou, parce que moi, j'étais illégale, et on ne fait pas des choses comme ça. Mais j'ai décidé d'y aller. Et quand je passais, j'ai regardé à ces nazis et j'ai reconnu un visage. C'était quelqu'un qui, un visage que je connaissais de manifestation de la gauche. En passant, il me disait, Foulkan, n'entre pas. Parce qu'il me reconnaissait tout.
Pour vous protéger ou pour
vous
menacer?
Pour me protéger. Et je n'ai pas mis aucune attention. Je suis entrée, alors j'ai dit à ce bonhomme qui était très nerveux, un homme juif, je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas venue acheter des chaussures, j'en ai pas besoin, je n'ai pas d'argent, mais il y avait quelque chose qui me faisait entrer pour vous laisser voir que vous n'êtes pas seul.
Lisa Fitko, quand est-ce que vous avez su que votre vie était définitivement une vie d'exilée? Quand est-ce que vous avez su que vous ne reviendriez pas en Allemagne?
Pour moi, personnellement, ça a pris beaucoup de temps. Pour une raison psychologique que je ne comprends pas trop bien moi-même, je sentais pendant toutes ces années que tout ça, c'est-à-dire l'immigration, que c'est une chose provisoire. Je n'avais jamais le sentiment que maintenant ma vie a changé, que maintenant je ne vais plus retourner en Allemagne ou je ne vais plus retourner en Europe. Ça, c'était dehors de mes sentiments, de mes pensées. Je trouvais toujours, alors il faut espérer, il faut attendre, c'est plus long que je ne pensais pas. D'abord, je pensais, enfin, 6 mois, 1 an, ça peut durer pas plus. Enfin, le peuple allemand ne va jamais tolérer ça, cette barbarie. On va retourner. Et ça devenait de. C'était d'un an et deux et trois, et ça me prenait très longtemps pour comprendre que ce n'est pas une interruption temporaire de ma vie.
Quand vous êtes à Cuba, à la fin de la guerre, est-ce que vous pensez que vous allez retourner à Berlin?
Mais on voulait, surtout mon mari,
il était
sûr qu'il voulait rentrer, c'était tout ce qu'il voulait, mais ce n'était pas possible. On n'avait toujours pas de papier, on n'était pas citoyen d'aucun pays.
Vous étiez apatride.
On était apatride, on avait un passeport temporaire de Cuba, mais pas pour voyager. Alors, il n'y avait pas de bateau partant de Cuba à l'Europe. Il fallait aller aux États-Unis pour prendre un bateau. Et les États-Unis nous ont pas donné des visas de transit. Ils ne voulaient pas de nous, ni aux États-Unis, ni pour... ils n'étaient pas intéressés de notre retour en Europe.
Pourquoi ?
Parce qu'ils avaient occupé l'Europe et ils avaient peur que ces réfugiés qui revenaient, peut-être ils étaient de gauche, peut-être il y en avait même des communistes, on ne pouvait pas laisser passer ça.
Et vous étiez affilié à un parti ?
Non.
Et vous pensez qu'ils vous prenaient pour des communistes ?
Ce n'était pas les FIDCO, c'était tout le monde. Il y avait beaucoup de réfugiés politiques à Cuba. Quelques-uns étaient d'un parti, d'autres étaient, enfin, comme nous, de gauche. Mais on ne donnait pas de visa de transit. On ne voulait pas prendre le temps pour trouver si l'un socialiste ou un communiste ou rien du tout. On ne donnait pas ces visas de passage à l'Amérique aux réfugiés. On ne voulait pas laisser les retourner jusqu'à, je ne sais pas, mais peut-être 4 ans. Plus tard, on donnait les premiers visas de transit et c'était très difficile encore. Et alors, nous étions déjà aux États-Unis, mais quelques-uns de nos amis qui voulaient la même chose comme nous, et c'était des réfugiés politiques, des juifs ou non, et après quelques années, il y en avait qui pouvaient retourner.
À Berlin ?
À Berlin, en Allemagne.
Bertolt Brecht est retourné en Allemagne.
Oui, il allait à l'Est.
Oui.
Oui, et de tout ça. Et alors, quand on est venu aux États-Unis, ce n'était pas une période très bonne pour des gens politiques comme lui. C'était un peu avant la période McCarthy. Et il n'y avait rien à faire là.
C'était Mémoire du siècle. Aujourd'hui, Lisa Fitko. Une émission de Pascal Werner, mixée par Maurice Billard, réalisée par Olivier Coppin. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 août 1988. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».